Donc le dossier aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, est consacré à l'avortement. Et on va parler de l'avortement avec donc deux militantes féministes donc, que je vais présenter. Donc, je vais d'abord commencer par Michèle Ferrand, qui est une militante féministe de longue date.
La plus vieille.
Qui a participé notamment au mouvement féministe qui ont débouché sur la loi Veil, qui a participé au MLAC, qui a introduit aussi le militantisme féministe au sein de la CFDT. Et qui est par ailleurs chercheur, directeur de recherche au CNRS.
Directrice, je m'excuse, de recherche au CNRS en sociologie. Donc elle a fait d'innombrables travaux. Elle avait déjà travaillé sur l'avortement au début des années 80.
Et elle a repris ses travaux, notamment avec Nathalie Bajos de l'INSERM. Elle a notamment publié avec donc Nathalie Bajos et l'équipe Giné de la contraception à l'avortement, sociologie des grossesses non prévues aux éditions INSERM en 2002. Elle a également publié Masculin, féminin, un petit repère à la découverte, et elle vient de coordonner avec un article qu'elle inscrit dans ce numéro, un numéro de Société contemporaine, Avortement ici et ailleurs, publié en 2006, c'est le numéro 61. J'ai oublié de dire aussi qu'elle travaille actuellement sur la contraception en Afrique et au Maghreb. Est-ce que j'ai rien oublié dans la présentation ?
Si, j'ai quand même commis avec Marie Jaspard le seul et unique Que sais-je traitant de l'avortement, qui a été casé dans la collection médecine et qui a été pilonné très très rapidement en 87, publié en 87 et introuvable.
Là c'est complet. Donc on reçoit aussi Maud Jelly, donc qui est militante du collectif national du droit des femmes et également militante à la LCR.
Des droits des femmes, on est chiante en syntaxe. Hein.
Ah, alors oui, très bien. Donc il faudra faire rectifier aussi le programme du Centre Pompidou.
Oui, je leur ai dit.
D'accord. Et qui est médecin aussi généraliste dans un centre donc de planning familial à Saint-Denis et dans un centre IVG à Colombes. Elle a publié l'année dernière, je pense, Avortement et contraception dans les études médicales, une formation inadaptée aux éditions L'Harmattan. On aura l'occasion de revenir...
Dans la collection du féminisme.
Très bien. Ça va là ?
À peu
c'est
près.
Bon,
c'est bon. Ça va aller cette émission. Donc bon, c'est un vaste sujet, c'est pas évident de commencer à discuter de cette question de l'avortement. J'aurais envie de revenir sur ce qu'on a entendu ce matin. Ça a été difficile de pas entendre à la radio que la France était un digne pays de la natalité, battant des records dignes d'une république catholique intégriste. À côté de ça, on sait notamment grâce aux travaux féministes que la contraception est relativement bien généralisée en France. Et pourtant, l'avortement reste un phénomène important, même si on en parle peu, même si on le connaît peu dans les débats publics. Ça reste un phénomène qui n'est pas qui est très loin d'avoir disparu, qui reste un phénomène important en France. Michel, tu peux peut-être expliquer.
Oui,
peut-être...
On a à peu près autour de 200, entre 200 et 220 000 avortements par an, et cela depuis quasiment le vote de la loi. Donc ça reste un phénomène très important. On dit grosso modo qu'une femme sur deux va rencontrer dans sa vie la possibilité de recourir, va recourir à l'avortement.
Et est-ce que tu peux expliquer rapidement et historiquement comment on peut rencontrer un pays qui conjugue à la fois une politique de natalité forte, un recours à l'avortement qui est loin d'être une pratique secondaire, mais également une diffusion de la contraception?
Alors, bon, il faut remonter un peu dans l'historique et rappeler que en 1870, si la France a perdu contre l'Allemagne, c'était pas la faute des généraux, c'était la faute des femmes françaises qui n'avaient pas fait assez d'enfants. Donc au tournant du siècle, s'est instauré en France un climat nataliste, populationniste, contre lequel les tenants du contrôle des naissances n'ont pas réussi à avancer leur pion d'une façon correcte. Et puis, il y a eu la guerre de 14. Là, on a gagné, mais on a tué beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes qui n'ont pas pu procréer puisqu'ils étaient morts et qui ne pourraient pas procréer à l'avenir. Donc, il fallait de nouveau renvoyer les femmes françaises après l'usine dans leur foyer pour qu'elles fassent beaucoup de petits français, pour qu'on puisse garder l'Alsace et la Lorraine. Donc on a voté ce que les féministes ont appelé, avec un certain nombre de femmes, la loi scélérate, la loi de 1920, celle qui interdisait tout moyen d'éviter une naissance et qui confondait l'avortement, toutes les techniques abortives et toutes les techniques contraceptives, qui étaient à l'époque relativement peu développées et qui consistaient essentiellement dans des méthodes mécaniques. Donc, il ne restait, à partir du vote de la loi, seuls les préservatifs étaient encore en vente, parce qu'on craignait encore plus la syphilis que la dépopulation. Mais pour le reste, pour les femmes, en ce qui concernait les femmes, tous les instruments permettant de contrôler les naissances, et notamment les diaphragmes ou les pessaires ou les cônes vaginaux, ont disparu des pharmacies. Et on est parti pour 50 ans de traitement inique des femmes en France, où le seul moyen qui leur restait, en dehors du coït interrompu, dont on sait qu'il interrompt aussi le plaisir, y compris celui des hommes d'ailleurs, mais pour les femmes d'une façon encore plus évidente, il a été impossible de recourir à une autre technique que l'avortement clandestin, dans des mauvaises conditions et de façon très chère. Alors quelques femmes privilégiées, peu à peu, on trouvait des filières. On pouvait aller avorter en Suisse, et puis peu à peu, la libéralisation aidant, après-guerre, on pouvait aller avorter en Angleterre ou aux Pays-Bas, mais en France, néant. Alors, il y a eu quand même un mouvement en faveur du contrôle des naissances, mais c'était un mouvement tout à fait libéral, je dirais libéral-moderniste, très bien porté par Giscard d'Estaing, soutenu par les francs-maçons, qui a donné lieu à la première loi sur la contraception, la loi Neuwirth en 67, qui, justement, là, séparait très nettement l'avortement et la contraception. Mais cette loi était très, très limitée, elle n'était pas autorisée, n'autorisait pas la contraception pour les mineurs, et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était 21 ans, et les décrets d'application ont mis à peu près 4 ans à être votés, ou plutôt déposés, 4 ans, et 4 ans, il y a eu 68 entre les deux, et 68, ça a donné lieu aussi assez rapidement au mouvement des femmes, et là, le mouvement des femmes s'est radicalisé, accompagné d'ailleurs par le planning familial qui, jusqu'alors, prenait davantage la contraception comme moyen de faire disparaître l'avortement. Mais Planning, MLF et un certain nombre d'autres associations et les syndicats, dont la CFDT, se sont battus pour que soit reconnu aux femmes le droit de disposer de leur corps. Et pour cela, il fallait à la fois la contraception et l'avortement. Alors, en 1974, ont été votées deux lois, en décembre 1974, la deuxième loi Neuwirth, et la loi Veil. La loi Veil est dite loi de 75 parce qu'il y a eu quelques petites difficultés avec les opposants, et on a donc elle a été promulguée en fait en 75, mais elle a été votée en 74. Et en 74, on a opposé justement la bonne pratique, la contraception, qui était remboursée par la sécurité sociale, et la mauvaise pratique, l'ultime recours, qui était l'avortement. Ensuite, je passerai rapidement là-dessus, mais cette voie n'a été votée que pour 5 ans, car on avait peur, encore une fois, que ça provoque la chute de la natalité. Pas du tout, pas du tout. Il se trouve que les femmes ne se sont pas précipitées sur la possibilité d'avorter, mais qu'elles ont continué à utiliser l'avortement simplement dans des conditions beaucoup plus sûres. Ensuite, il a fallu attendre la gauche pour le remboursement de l'avortement. Puis, ensuite, la loi Aubry, la loi Neyertz, parce qu'il y avait quelques opposants qui a lutté contre le délit d'entrave, qui a dénoncé le délit d'entrave à l'IVG. Puis, grosso modo, la loi Aubry de 2001, qui a profondément réformer la loi, on pourrait y revenir, sur le dispositif. Et enfin, en 2004, les décrets qui sortent l'avortement de l'hôpital en permettant l'utilisation du RU en ville.
Je voudrais peut-être revenir quand même un moment sur le vote de cette loi de 75, dite loi Veil. Vous dites donc il y a eu essentiellement le mouvement féministe derrière qui a poussé. Il y a eu sans doute une bonne partie de l'opinion qui était favorable à cette loi. Mais qu'est-ce qui, selon vous, au-delà dans le jeu institutionnel, parmi les hommes politiques, a fait qu'ils ont consenti, accepté de répondre à l'attente des femmes? Ouais. C'est le 68, où il y a une prise de conscience
Ils n'avaient pas vraiment le choix, parce que la loi était bafouée ouvertement. Hein. Les femmes, en 71, le Nouvel Obs a publié ce qu'on a appelé le manifeste des 343 salopes. C'est-à-dire 343 femmes, célèbres et non célèbres, ont déclaré « j'ai avorté, punissez-moi si c'est un délit ». En 73, s'est créé à l'initiative des mouvements féministes, du planning et du GIS, groupe information santé, aux mains des médecins, qui était un mouvement pour la démédicalisation de la société et pour l'appropriation par les malades de la manière de se soigner. On crée le MLAC. MLAC qui a commencé à faire des avortements ouvertement en le déclarant. Un film a été tourné là-dessus qui s'appelle Histoire d'A, qui a été interdit et d'autant plus diffusé qu'il a été interdit. Et en 72, il y a eu le procès de Bobigny, qui était une jeune fille, le procès de Marie-Claire, une jeune fille de 17 ans qui avait avorté, qui avait été dénoncée. Et sa mère et Marie-Claire comparaissaient à Bobigny, défendue par Gisèle Halimi, qui a utilisé ce procès comme une tribune et qui a montré Marie-Claire et sa mère ont été relaxées. Donc cette loi a été non seulement bafouée, mais pas appliquée. Donc il fallait absolument la changer. Alors ensuite, c'est une vraie loi de compromis. Et cette loi de compromis, on y reviendra peut-être plus tard, c'est faite grâce à la médicalisation du dispositif. On était dans une période où, justement, dominait l'idée que médicaliser les problèmes de la société était probablement le meilleur mode de contrôle social. Est-ce que ça répond ?
Oui, tout à fait.
Et donc, depuis le vote de la loi Veil, on a assisté quand même à des améliorations des dispositifs en partie, par la gauche. Tu disais que Chirac en 86 était quand même plus réservé sur le...
Ah ben Chirac en 86, il a essayé de dérembourser, mais il y a eu une fuite. Et le jour même, fuite qui a été annoncée à la radio, le jour même, il y avait 50 000 femmes dans la rue de Rennes. Alors qu'on pensait que en 86 tout ça était bien éteint, le féminisme n'était plus très en vogue. Mmh. On était revenu aux jartelles en dentelle et aux talons, mais sur l'avortement, les femmes n'avaient pas changé d'avis.
Et donc dans la période plus contemporaine, donc ces dernières années, quelles ont été les véritables avancées législatives pour l'accès à l'IVG?
Alors, très récemment, il y a eu les décrets qui ont été signés en 2004, dont parlait Michel, qui rendent effective la possibilité d'avorter en ville par la méthode médicamenteuse. Alors, cette possibilité était contenue dans la loi de 2001, qui rendait légale l'IVG médicamenteuse en ville, c'est-à-dire un avortement qui peut très bien être réalisé chez soi, à la maison, en prenant des comprimés qui arrêtent la grossesse et qui déclenchent l'avortement. C'est possible jusqu'à un petit peu plus d'un mois de grossesse. C'est une méthode très sûre et qui est appréciée par les femmes quand elles la choisissent. Ça, c'est important parce que quand les décrets ont été signés en 2004 par Douste Blasi, lui, il n'a pas du tout... C'était une revendication depuis 3 ans des militantes féministes qui disaient « c'est dans la loi de 2001 qu'on a gagné, maintenant il faut signer les décrets, il faut que ça soit enfin possible ». Mais les militantes féministes le demandaient parce que ça élargissait la palette de choix des femmes. C'est pas du tout sur ces arguments-là que Douste Blasi a signé le décret à l'été 2004, assez discrètement. Il l'a signé en disant « ça va permettre d'alléger les centres IVG ». Ce qui est une mauvaise raison pour signer une bonne mesure, parce que alléger les centres IVG, ça correspond tout à fait au projet de ce gouvernement de droite de désengager le service public d'un certain nombre de ses missions. Et d'autre part, on sait d'après les enquêtes, notamment les enquêtes Cocon essentiellement les enquêtes Cocon et Giné, que la méthode médicamenteuse est les femmes en sont satisfaites quand elles l'ont choisie. Ce qui veut dire que si elles optent pour la méthode médicamenteuse par dépit un peu, parce qu'elles savent que pour avorter à l'hôpital ou en centre d'IVG, il faut attendre 3 semaines, ce qui est la réalité actuellement en région parisienne, c'est 3-4 semaines d'attente. Et en France, c'est 2,5 semaines, un truc comme ça. Quand elles optent pour cette méthode par dépit, elles en sont moins contentes parce que toutes les femmes n'ont pas envie d'être chez elles, à la maison, avec peut-être chez des parents qui ne sont pas au courant, chez un conjoint qui n'est pas au courant de la grossesse ou qui est au courant de la grossesse mais qui n'est pas d'accord pour que la femme avorte. Et enfin bref, il y a tout un tas de conditions dans lesquelles les femmes peuvent ne pas choisir cette méthode. Et dans ces conditions-là, il faut qu'elles aient accès à l'hôpital. Et cet accès au centre d'IVG est actuellement très compliqué et c'est loin de s'arranger dans certains départements. Donc en 2004, quand Douste Blasi a signé les décrets, c'était avec ces arguments-là, alléger le service public. Or, maintenant, on peut faire des avortements médicamenteux à domicile et c'est très bien. Ça correspondait à une demande des femmes et il y a une vraie demande importante et les femmes en sont satisfaites. Mais là encore, tout n'est pas encore, l'égalité d'accès à l'IVG n'est pas complète parce que quand il a signé ce décret, non seulement c'était pour décharger le service public, mais en plus, il a pas prévu. Alors, est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était un oubli? La suite de l'histoire prouve que c'était délibéré. Le gouvernement n'a pas prévu que les avortements médicamenteux puissent être faits en centre de planif, hein. C'est-à-dire des structures légères, publiques. Par exemple, comme celle où je travaille à Saint-Denis, c'est un centre de planning où il y a des infirmières, des médecins, il y a une dizaine de salariés. Et ce qui a été prévu par le décret de 2004, c'est que des médecins libéraux en ville puissent prescrire les médicaments pour que les femmes fassent leur avortement à domicile, mais pas que des médecins salariés de centres de planning, structures publiques, puissent prescrire les médicaments. Donc là, on voit bien la logique. La signature des décrets de 2004, c'était désengager le service public pour renvoyer au privé la médecine libérale. Donc premier problème. Et deuxième problème, ce qui n'a pas été prévu, là encore, oubli délibéré ou oubli sincère, c'est que la possibilité de prise en charge par la Sécu des femmes non assurées sociales, qui est possible quand on avorte à l'hôpital, n'a pas été prévue pour l'IVG médicamenteuse en ville. Alors c'est énorme, dans une pratique de centre de planning comme la mienne, c'est à peu près une femme sur quatre qui demande cette méthode, qui souhaite vraiment avorter par médicament chez elle, une femme sur quatre n'a pas de couverture sociale, donc soit n'a pas de couverture sociale parce qu'elle est étrangère avec moins de 3 mois de séjour, et quand on a moins de 3 mois de séjour, maintenant, grâce à une circulaire qui a été signée en 2000, quand on n'a pas 3 mois de séjour, on n'a pas droit à l'aide médicale d'État. Donc il y a des étrangères qui ont moins de 3 mois de séjour et qui n'ont aucune couverture sociale. Donc ces femmes-là ne peuvent pas, en principe, avorter en ville, ou alors elles payent de leur poche. Et autre cas de figure, des femmes qui sont ayant droit de leurs parents. Parce que, alors là encore, c'est une vieille revendication féministe, l'individualisation des droits sociaux, mais qui n'a pas été gagnée, un jour peut-être. En tout cas, des femmes qui sont ayant droit de leurs parents ou de leurs conjoints sont couvertes par la sécu de leurs parents ou de leurs conjoints. Et donc, si elles avortent et que leurs parents ou leurs conjoints ne sont pas au courant, ils vont recevoir le décompte des remboursements avec la trace de l'avortement. Donc, évidemment, ce n'est pas envisageable. Donc, pour ces femmes, quand elles avortent à l'hôpital, on peut faire une demande de prise en charge, ce qui fait que l'avortement est entièrement payé par l'hôpital qui se fait rembourser par la sécu, qui se fait rembourser par l'État. Bon, peu importe le montage financier. Toujours est-il que ce type de prise en charge n'est pas possible pour l'avortement en ville. Donc on voit bien que cette technique, telle qu'elle a été conçue par le gouvernement, c'est désengager le public pour déléguer au privé, aux médecins libéraux, la pratique de l'avortement médicamenteux en ville, et en excluant les femmes les plus précaires qui représentent un quart des femmes dans des centres de planif comme celui où je travaille. Donc, pour mettre fin à cette injustice et à cette discrimination flagrante dans l'accès aux soins, des professionnels de centres de planning du 93 ont écrit une pétition qui n'est pas encore en ligne, mais qu'on peut faire circuler via la liste du site. Alors pourquoi des professionnels du 93? Parce que le décret de 2004 ayant oublié entre guillemets les centres de planif, le département de la Seine-Saint-Denis a autorisé les médecins travaillant en centre de planif du département à pratiquer des IVG médicamenteuses en ville. Donc depuis un an à peu près, bientôt, on fait des avortements médicamenteux en ville. Ça se passe très bien. Les femmes sont très contentes. Nous aussi. Et
on revient au procès de Bobigny, alors, d'une certaine façon.
On revient au procès de Bobigny parce que... On peut y revenir. Bon, on prend pas les risques que prenait Marie-Claire, faut pas exagérer, mais
l'idée c'est ça, c'est quand même d'essayer de contourner la loi en délibérément la non.
Non, c'est non, on peut pas. Franchement, je crois pas qu'on peut dire ça. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Non, là où on contourne la loi, c'est que on est un certain nombre de médecins, dont moi, à refuser de dire à au quart de ces femmes qui veulent un avortement médicamenteux, non, on peut pas vous prendre en charge, allez à l'hôpital. On refuse d'appliquer cette discrimination, et donc on a recours à des expédients divers. Que je vais peut-être pas raconter ici quand même, pour qu'elle puisse avorter quand même. Voilà, donc on est quelques-uns à contourner la loi. Et bon, c'est pas totalement illégal, mais c'est des petites tricheries. Par contre, la délibération du 93, on peut pas dire que ce soit un contournement de la loi. Dans la mesure où n'importe quelle collectivité locale a le droit de prendre des décisions qui vont un peu plus loin que la loi, et le préfet a, dans ce cas, le préfet qui représente l'État a 2 mois pour faire ce qui s'appelle un contrôle de légalité sur cette décision. Et dans les 2 mois qui ont suivi la délibération du Conseil général du 93, le préfet du 93 n'a rien dit. Donc, de fait, maintenant, c'est légal. Alors, il faut se battre pour que le décret de 92 qui fixe les missions des centres de planif soit étendu à l'avortement, puisque l'avortement est une méthode de contrôle de la fécondité comme une autre. Donc, ça doit être dans les missions des centres de planif. Et il faut se battre pour modifier les missions des centres de planif. Mais en attendant, tous les centres de planif qui le veulent, quel que soit le département dans lequel ils se situent, peuvent commencer, puisque le préfet n'ayant pas émis d'objection au contrôle de légalité, désormais c'est légal.
Yeah.
vous aurez évidemment reconnu Le Tigre, un groupe féministe de lesbiennes très militante qui fait plaisir à Juliette. L'autre Juliette, tu voulais revenir au débat sur l'avortement.
Oui, vous êtes toujours avec les oreilles loin du fond. Et donc, nous parlons d'avortement et au début de l'émission, Michel, vous nous expliquiez qu'il y avait environ 200 000 avortements en France et que ce chiffre était relativement stable. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il y a toujours cette même stabilité alors qu'il y a une hausse de l'accès à la contraception depuis les années 70 ?
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle avec Nathalie Bajos le paradoxe français, parce que c'est très vendeur. Sur le site de l'INED, vous trouverez un Population et Société que l'on peut télécharger gratuitement et qui vous explique pourquoi, mais je vais vous le dire rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que la contraception augmente, mais avec la contraception augmente l'esprit contraceptif. C'est-à-dire que plus on utilise la contraception, moins on en supporte les échecs. C'est-à-dire qu'en cas d'échec de contraception, on recourt à l'avortement. Pourquoi ? Parce que si on prend une contraception, c'est pour avoir un enfant au moment où on le désire. Et si le moment est malvenu, on n'a aucune hésitation pour recourir à l'avortement, puisqu'on a fait tout ce qu'on pensait pouvoir faire pour éviter cette naissance. Enfin, cette naissance, plutôt cette grossesse. Et ce qui se passe, en fait, pour cette stabilité, c'est que depuis 20 ans, donc le nombre de femmes utilisant la contraception moderne ne cesse d'augmenter. Maintenant, la contraception moderne est diffusée dans toute la société, quels que soient les groupes sociaux, quelle que soit la religion, le niveau d'études, le type d'habitat urbain ou rural, etc., etc. Il reste très peu de freins, il en demeure encore, mais il en reste très peu à la diffusion générale de la contraception. Mais il y a 20 ans, quand une femme se trouvait face à ce qu'on appelle une grossesse non prévue, c'est-à-dire non programmée, elle avortait à 40%. Aujourd'hui, elle avorte à 60%. Or, à l'époque, il y avait environ 60% des grossesses qui étaient non prévues, et aujourd'hui, on n'en a plus que 40%. Donc, si vous faites les deux courbes, vous voyez des courbes qui se croisent, et la résultante des deux est parfaitement parallèle.
Mais en même temps, les grossesses non prévues, c'est pas naturel, évidemment. Ça se construit, j'imagine que ça fonctionne pas.
Comment ça, c'est pas naturel? C'est parfaitement naturel.
Non,
c'est,
je veux dire, le fait
comme la mort.
Oui, mais le fait de désirer une grossesse ou pas, ça évolue évidemment dans la société, historiquement, selon les différents pays, selon les différentes cultures. On peut considérer qu'une grossesse est plus ou moins souhaitable dans le parcours d'une femme ou dans le parcours d'un
couple. Oui, c'est-à-dire que je dirais que la grossesse programmée est quand même une idée neuve en Europe et dans le monde. Et même dans le monde, c'est pas encore une idée, c'est pas encore réalisable. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu parallèlement à la loi Veil, notamment, surtout conjuguée avec la deuxième loi Neuwirth, l'apparition de ce qu'on a appelé à la fois la norme procréative qui s'articule avec la norme contraceptive. La norme procréative, c'est quoi ? Puisque les femmes veulent décider d'avoir un enfant, je vous rappelle le MLF, un enfant si je veux, quand je veux, il faut qu'elles utilisent la contraception. Et en cas, et seulement en cas d'échec de contraception, elle peut recourir à l'avortement qui reste un ultime recours. Mais entre les deux, cet enfant désiré que les femmes veulent avoir, il doit bénéficier, puisqu'on peut choisir du moment où il arrive, il doit bénéficier des meilleures conditions. Il doit avoir un père, et un père qui en veuille. Il doit avoir une mère suffisamment mûre, mais pas trop vieille, pas blette. C'est-à-dire 25-35. Avant, c'est un peu tôt, un peu immature. Après 35, d'abord, mesdames, vous êtes beaucoup moins fertiles, ça va être beaucoup plus long. Faites donc vos enfants avant 35 ans. Et en plus, il lui faut les conditions adéquates pour son éducation et notamment sa prime éducation. Et donc, mesdames, qui voulait avoir un enfant, mettez donc un bémol sur votre investissement professionnel. Sinon, votre enfant que vous avez décidé d'avoir va connaître peut-être des périodes plus difficiles et en tous les cas son épanouissement risque d'être contrarié par votre investissement professionnel. L'investissement professionnel du père en l'occurrence est fort peu évoqué, même si de plus en plus d'hommes s'occupent quand même de leurs enfants. Et donc cette norme procréative s'accompagne de la norme contraceptive. Donc si vous ne voulez pas d'enfants, vous utilisez la contraception. Donc le premier principe de la norme contraceptive, c'est pas de sexualité sans contraception. Mais elle se décline ensuite d'une façon plus ou moins rigide, suivant les périodes, suivant l'âge de la femme, suivant le nombre d'enfants qu'elle a et suivant le type de relation qu'elle entretient. Relation occasionnelle, préservatif, d'autant plus facilement d'ailleurs, d'autant plus systématiquement, je dirais, qu'il y a le sida. Ensuite, dès que la relation s'installe, pilule. C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les femmes. Et puis c'est tellement simple d'avaler un petit comprimé tous les soirs. Vraiment, il n'y a que les irresponsables qui n'arrivent pas à faire ce geste. Vraiment simple, il suffit de le mettre, de mettre sa plaquette à côté de son tube de dentifrice. Alors ensuite, on arrête la pilule pour faire les enfants. Et une fois que les enfants sont faits, une technique, le stérilet. En France, on ne pose pas de stérilet, ou plutôt on ne posait pas, ça change un petit peu quand même maintenant, Maud va peut-être nous en parler, on ne posait pas de stérilet aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Parce que le risque du stérilet, en cas de pluripartenariat, c'est les infections génitales, et la salpingite et la stérilité féminine qui peut en découler. Et nous sommes dans un pays nataliste, donc préservons la fertilité des femmes. Or, dans tous les autres pays d'Europe, aux États-Unis, on posait des stérilets aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Simplement, en France, on considérait qu'une femme n'est pas capable de juger des risques qu'elle court, c'est-à-dire le fait qu'on ne met pas de stérilet si on a beaucoup de partenaires. Donc, non seulement on ne demande pas aux femmes si elles ont beaucoup de partenaires, mais on fait comme si, de toute façon, elles étaient toujours à risque d'en avoir. Voilà. Donc, contraception suivant l'âge. Alors, la pilule aussi... Aussi, il faut arrêter de fumer. Hein.
Non, mais c'est un peu terrible ce que vous dites, puisque si on suit vos recommandations, vous expliquez que les femmes devraient abandonner en fait, leur carrière professionnelle pour se consacrer, au moins diminuer leur intensité professionnelle pour se consacrer à l'enfantement. C'est au niveau de la répartition du rôle des sexes, c'est une disproportion qui n'a pas sans conséquence.
Bah, je dirais même qu'on est en pleine régression. Hein, c'est-à-dire que les avancées des femmes sur le marché du travail ne s'étant pas concrétisées par les mêmes avancées des hommes sur le travail domestique, elles ont toujours 80% des tâches sur le dos. Et en plus, comme maintenant, la bonne mère, ce n'est pas seulement celle qui entretient bien son enfant, le nourrit bien, l'envoie à l'école quand il faut, mais la mère qui permet que son enfant s'épanouisse et devienne astronome à 1 an et lecteur à 3. Et que si elles passent à côté de ça, elles ont raté leur vie. Si elles passent à côté de toutes ces expériences, ça devient quand même très très compliqué pour les femmes.
Pour revenir sur la contraception, mais il existe aussi d'autres choses, par exemple comme les implants, et en France c'est très peu développé, alors que ça pourrait l'être en particulier pour les jeunes filles qui n'ont pas forcément...
Mais je crois que là, Maud pourrait peut-être nous en parler à propos de ce que les médecins eux-mêmes connaissent sur la contraception.
Alors, effectivement, on peut espérer pour les prochaines années un petit changement sur l'affaire du stérilet et de la grande frayeur médicale vis-à-vis du stérilet chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, voire même, comme disent certains bouquins, chez les femmes qui n'ont pas eu tous les enfants qu'elles désirent. Alors, il va peut-être y avoir un petit progrès, puisque la Haute Autorité de Santé a écrit en 2004 un référentiel qui s'appelle « Stratégie contraceptive chez les femmes ». Non, chez la femme, d'ailleurs, ils ont écrit, ces andouilles. Et dans lequel ils prouvent, en rassemblant toutes les études très rassurantes sur le stérilet chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ils recommandent de poser des stérilets en première intention, c'est-à-dire si la femme le désire, avant même qu'elle ait essayé la pilule et que ça ne lui convienne pas. Si la femme demande un stérilet, quel que soit son nombre d'enfants, qu'elle ait eu ou non des enfants, ce rapport recommande de poser des stérilets si la femme le souhaite et qu'elle a un seul partenaire. Voire même, une fois que la femme est informée que si elle change de partenaire, elle risque plus de rencontrer un microbe et que dans ce cas-là, vaut mieux mettre des préservatifs ou alors enlever le stérilet et changer, ou alors garder le stérilet et consulter dès qu'elle a un symptôme anormal. Toutes les alternatives sont possibles à expliquer aux femmes et les femmes ne sont pas débiles, elles comprennent très bien et elles sont demandeuses d'informations. Donc ce référentiel de la Haute Autorité de Santé est écrit noir sur blanc. Le problème, c'est que rien ne garantit qu'il va se diffuser et que quand on examine un peu ce que les futurs médecins ont dans la tête quand ils sortent de la fac, c'est un petit peu inquiétant dans la mesure où ils ressortent en matière de contraception avec parfois plus de connaissances erronées qu'en entrant à la fac. Alors pas sur tout, il ne faut pas caricaturer, mais notamment sur cette histoire de stérilet. Moi, j'ai fait une petite étude très limitée sur un tout petit effectif pour ma thèse de médecine générale et cette enquête met en évidence que la croyance des futurs médecins en la contre-indication de la pose de stérilet chez des femmes n'ayant pas eu d'enfants, cette croyance progresse entre le début et la fin de leurs études, ce qui est assez inquiétant. Ça veut dire qu'ils apprennent des choses fausses. Ils apprennent aussi que l'avortement c'est dangereux. Enfin, soit ils l'apprennent, soit leurs études ne font pas régresser cette notion, ce qui est inquiétant de la part d'études dont on attend des connaissances objectives. Voilà. Donc ça c'est sur l'histoire du stérilet. Sur l'implant, moi je serais peut-être un peu plus mitigée. Alors, il y a une sociologue qui s'appelle Hélène Bretin qui a beaucoup travaillé sur la façon dont le choix de la méthode contraceptive par le médecin contribue à construire des catégories de femmes et des catégories de sexualité féminine. Elle l'a montré à partir de l'exemple d'une méthode de contraceptive très stigmatisée en France. Qui est, oui, même dans la plupart des pays du monde, c'est une des premières contraceptions utilisées dans le monde, qui est un contraceptif injectable. C'est une piqûre qu'on fait une fois tous les 3 mois. Et elle a montré qu'en France, cette contraception n'est proposée par les médecins qu'à certaines femmes qui sont vues par les médecins comme incapables d'utiliser une autre contraception, en général des femmes étrangères, étant dans des situations, ils disent, d'échecs contraceptifs répétés, voilà, comme... Bon. Et l'implant... Alors, pour l'implant, l'affaire est un peu plus compliquée parce que il a été mis sur le marché avec une propagande, une pub qui le présentait comme une méthode moderne pour les femmes modernes, jeunes, c'est discret, moi avec mon implant. En plus, ça arrête les règles, chez certaines femmes, pas chez toutes. Donc on peut faire plein de trucs quand on n'a pas de règles, c'est génial. Bon. Donc il a été promu avec cette image-là. Donc on va voir dans quelques années, mais peut-être qu'il est utilisé par des femmes qui ont cette image-là de cette méthode, mais il me semble aussi qu'il est parfois proposé de manière très très insistante, pour ne pas dire imposé, notamment à la sortie des maternités et de certaines maternités, par des médecins, des sages-femmes qui le posent sans trop expliquer aux femmes quel désagrément il peut comporter, parce que comme n'importe quelle méthode de contraceptive, comme n'importe quelle méthode de contraception, il a des inconvénients et des enquiquinements, pas grave, mais pas toujours marrant tous les jours. Et donc, il leur pose sans trop leur expliquer que parfois ça peut faire grossir, que ça peut donner des saignements un peu n'importe comment. Il leur pose sans trop leur dire, parce qu'il se dit, celle-là, faut absolument plus qu'elle ait d'enfants, faut absolument plus qu'elle avorte. Il y en a aussi beaucoup qui sont posés après une IVG. Pareil, sans trop expliquer aux femmes ce qui peut se passer avec cet implant. Toujours pareil, pour parce que cette femme, faut plus qu'elle avorte. Voilà. Donc, bon, peut-être que pour l'implant... faudrait
c'est
voir
pas remboursé,
dans
quelques
années.
Hein.
Si, c'est remboursé. L'implant,
ah, maintenant,
c'est remboursé.
C'est remboursé.
Ouais, l'implant est remboursé, heureusement, parce qu'il est très cher, 120 euros. Ce qui n'est pas remboursé, par contre, et c'est un scandale,
c'est
l'anneau vaginal. Et c'est une méthode géniale parce que ça a les avantages de la pilule, c'est-à-dire on peut supprimer ses règles quand on veut, les déclencher quand on veut, faire ce qu'on veut, avec un autre avantage majeur, invisible des parents, du conjoint, de qui on veut, mais c'est pas remboursé, ça coûte 15 euros par mois parce que ça utilise des molécules qui s'appellent des progestatifs de troisième génération qui n'ont jamais prouvé qu'elles étaient meilleures que les autres, mais le labo n'a pas demandé le remboursement par la Sécu parce que s'il obtient le remboursement par la Sécu, il pourra pas les vendre aussi cher. Et le gouvernement joue le jeu, et les médecins jouent le jeu puisqu'ils prescrivent beaucoup ces pilules de troisième génération qui sont pas meilleures que les autres. En tout cas, l'anneau vaginal utilise ces molécules-là, donc n'est pas remboursé. Et le patch contraceptif qui se change, lui, toutes les semaines, n'est pas remboursé non plus. Voilà, ça, c'est les deux méthodes contraceptives qui ne sont toujours pas remboursées.
aujourd'hui dans Les Oreilles Loin du Front, pas de chronique de Guillaume Yaume, mais de la musique inaudible quand même. Donc c'était My Way par l'inimitable Nina Hagen. Et on revient au débat sur l'avortement avec Juliette qui...
Oui, alors tout à l'heure, juste avant la pause musicale, vous nous expliquez toutes les méthodes contraceptives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que femme, ça peut arriver à tout le monde d'oublier sa pilule, qu'un préservatif casse. Et souvent, on a l'impression que si ça arrive, les femmes sont irresponsables et que arriver à un avortement, c'est une catastrophe. Alors que j'ai l'impression, moi, que c'est quasi dans la norme de la vie.
Ouais, ça fait partie de la vie des femmes. Une femme sur deux avorte dans une vie. Et puis, bon, le sens de l'avortement dans la vie de chaque femme, c'est à elle, ça regarde qu'elle. Pour certaines, c'est triste, pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est un moment très positif dans une vie. C'est le moment où elles reprennent le manche et où elles prennent... parfois une première décision importante pour leur vie. Il y a plein de femmes qui me disent que ça a été un moment où elles se sont construites comme individus. Et on est là très loin de l'image du drame, de la détresse, ce terme complètement crétin qui est resté écrit dans la loi de 2001. Oui, contrairement à ce que vous avez écrit dans Population et Société. donc on est loin de cette image de la détresse. Et d'ailleurs, Luc Boltanski a écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle La condition fœtale, dans lequel il interroge je ne sais plus combien de femmes sur
dans lequel il a fait interroger.
Oui. Ouais,
30 femmes.
Voilà, une trentaine de femmes. Et il les a choisies parmi les sœurs, filles de ses collègues. D'après ce qu'on comprend de sa méthode boule de neige, c'est que c'est grosso modo dans son milieu social. Et que donc on peut supposer, alors c'est toi la scientifique qui me dira si je me trompe, mais on peut supposer que ça maximise le discours d'auto-justification de « j'ai fait comme ça parce que j'avais pas le choix, je suis triste, c'est compliqué ». Et probablement que ça donne une plus grande place qu'elle naît dans la réalité au projet parental autour duquel il construit toute sa démonstration.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, moi je crois. Laissons tomber Boltanski parce qu'il aurait vraiment mieux fait de s'occuper d'autre chose que de l'avortement. Il ne traite pas du tout de l'avortement. Ne vous laissez pas piéger par ce bouquin, d'abord qui est beaucoup trop gros et... Qui fait de la sociologie à bas prix, je trouve. Mais pour en revenir aux femmes, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes à analyser. Il y a le fait de choisir, d'avoir un enfant ou non, et d'avoir ou non eu les moyens de faire ce choix. C'est-à-dire que l'échec contraceptif, ça existe de tous les côtés, ça existe y compris dans la prescription médicale, ça existe tout simplement parce que la vie sexuelle d'une femme peut aller de 15 à 50 ans, la vie sexuelle fertile, où il y a un risque d'être enceinte, et qu'on n'imagine pas que prendre la pilule tous les soirs soit envisageable, y compris si on a l'habitude de se laver les dents. Mais que ensuite l'avortement lui-même, c'est-à-dire quand une femme se trouve face à une grossesse non prévue, peut être un choix à la fois soit très facile, soit très difficile au contraire. Je prends un exemple dans l'enquête gyné qu'on a fait avec Nathalie Bajot, c'est toute une équipe où on a enquêté auprès de 80 femmes environ qui avaient était dans la situation de se retrouver devant une grossesse non prévue, qu'elles aient décidé d'avorter ou qu'elles aient décidé de garder l'enfant, on se rend compte que les raisons pour lesquelles les femmes avortent sont extrêmement complexes. Et que c'est soit un traumatisme pour elles quand, par exemple, cet enfant, elles auraient désiré le voir naître, soit c'est un véritable soulagement si, au contraire, cet embryon n'avait aucun sens pour elle.
Pour revenir sur l'avortement, là, aujourd'hui, on parle souvent des problèmes, des structures, de l'accès justement aux femmes qui veulent avorter, aux structures. Qu'en est-il exactement ?
Alors, il y a trois types de structures IVG. Les unités fonctionnelles qui sont une partie d'un service de gynéco où sont pratiqués des avortements par des médecins du service, en général des internes qui ne sont pas forcément motivés. Deuxième type de structure, l'activité IVG d'un service de gynéco, c'est-à-dire une structure encore moins protégée, réduite à la portion congrue, et en gros pendant les vacances d'été, quand une partie du personnel est en vacances, qu'est-ce qui est prioritaire? Les accouchements, il n'y a plus d'avortement. Troisième type de structure, les centres autonomes d'IVG, qui sont les structures dans lesquelles les professionnels sont les plus attachés à une garantie réelle de l'accès des femmes, de l'accès à l'IVG. En général, c'est des militants dans beaucoup de centres autonomes. Les professionnels qui travaillent ont commencé à faire des avortements avant la loi de 75, alors que c'était encore illégal. Un peu après le vote de la loi de 2001, il y a eu un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, dont j'ai oublié le titre exact, et qui recommande de faire rentrer les centres autonomes dans le droit commun hospitalier. Alors, ça a l'air de dire qu'on n'est pas dans le droit commun, alors qu'on fait rien d'illégal. On ne fait plus rien d'illégal. Le but du jeu, c'est d'en finir avec les centres autonomes, qui sont des structures relativement protégées, relativement remuantes, pour la plupart encore, et qui se battent pour conserver le personnel adéquat pour faire correctement des avortements, pour accueillir bien les femmes dans de bonnes conditions. Et les menaces qui se font de plus en plus précises, notamment avec le plan hôpital 2007, vont vers la disparition des centres autonomes. Et encore plus dans le plan hôpital 2007, il y a la tarification à l'activité qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un nouveau mode de tarification qui menace clairement l'accès à l'IVG.
Mais ça, non, il n'y a pas de côté positif à voir à intégrer ces centres autonomes dans un cadre hospitalier où il y aurait peut-être plus de moyens, plus de, je sais pas.
Alors, ce qui serait positif, ce serait d'imposer réellement que tous les services de gynéco-obstétrique, enfin que tous les établissements de santé assurent des avortements. Ça, ce serait positif, mais à mon avis, on devrait l'imposer sans pour autant bouffer les centres autonomes. Parce que c'était ça l'argumentaire dans le rapport de l'IGAS, c'était puisqu'il faut que tout le service public en fasse, pour ça, il faut en finir avec ce type de fonctionnement en trois structures différentes, alors qu'on peut totalement déconnecter les deux. Et d'autre part, on sait que l'avortement par la méthode, par aspiration, il n'y a plus de curetage, on ne devrait plus faire de curetage, il n'y en a quasiment plus, et ça devrait être zéro. La méthode par aspiration est vraiment sans danger, et ce serait tout à fait praticable hors établissement de santé, dans des centres de planning, des maisons de santé comme en Belgique, comme dans d'autres pays. Et on se bat pour ça, notamment l'ANSIC, Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception, se bat autour d'un projet de centre d'IVG extra-hospitalier au Bleuet, parce que la maternité des Bleuets va déménager à Trousseau. Donc l'idée, c'est de garder le site et de faire un centre extra-hospitalier sur le modèle des centres de planning belges. Il faut se battre non pour faire rentrer les centres autonomes dans le service public, quitte à les bouffer. Ils sont déjà dans le service public, mais l'idée, c'est de les fondre dans n'importe quel service hospitalier lambda. Il faut au contraire lutter pour une extension du service public. Et pourquoi pas, il y a 1100 centres de planning en France. On pourrait très bien imaginer que ces 1100 centres de planning fassent des avortements par aspiration, puisque maintenant, ils peuvent faire des avortements médicamenteux. Ils font de la contraception, des avortements médicamenteux, des avortements par aspiration. Ils s'occupent de tout ce qui concerne la sexualité et l'avortement comme la contraception font partie de la sexualité. Ces deux méthodes à égalité, deux moyens d'éviter une naissance, exactement à égalité, et l'une n'est pas la mauvaise face de l'autre.
Et comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans la lutte? Y a-t-il un site internet, un moyen de vous rejoindre?
Pour le centre, pour le projet de centre autonome des Bleuets, alors je pense qu'on en parlera au colloque de la CADAC, et puis il faut... On en parlera au colloque de la CADAC.
L'émission touche à sa fin. Michel, tu voulais nous dire qu'il fallait qu'on parte, qu'on quitte pas l'émission sans oublier quelque chose d'important.
Oui, d'abord, justement, bien mettre dans les têtes que si on veut donner aux femmes le droit de disposer de leur corps, il faut considérer l'avortement comme toutes les autres techniques de contraception, ce que vient de dire Maude. Et je voudrais rappeler aussi que dans le monde, la situation de l'avortement peut être, de l'avortement clandestin peut être catastrophique, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Et je voulais dire qu'il faut dénoncer l'Irlande et la Pologne et soutenir les Portugaises.
Donc, bon, on n'a pas de générique final aujourd'hui pour l'émission, on l'a un peu oublié. Mais bon, donc on va vous remercier d'avoir participé à cette émission. On aurait bien voulu parler d'autres thèmes que vous traitez, notamment dans vos publications. Donc on mettra les publications en ligne sur le site. Je dois vous rappeler, donc aujourd'hui, on avait avec nous donc Juliette, Jérémy, Lou, Guillaume, Juliette pour s'occuper de l'émission. Après quelques semaines de vaches maigres où les deux Juliettes ont pu prouver qu'on pouvait fonctionner très bien au service minimum, ce qui devrait faire plaisir à Sarkozy. Et on devrait retrouver en principe l'équipe à peu près au complète à partir de la semaine prochaine. Donc vous pourrez réécouter l'émission ce vendredi à midi, je pense, midi et demi, donc 14h. Et vous pourrez la réécouter également sur notre site. Alors j'ai oublié la nouvelle adresse.
www.loldf.org.